Chapitre 5. Le recours en grâce. Michel avait, dans la nuit même, écrit à sa mère une longue lettre qui commençait par des cris de douleur et qui, à mesure que la forte écriture couvrait les feuilles de papier, s'attendrissait, devenait suppliante et laissait même percer l'espoir. Il l'avait relue et avait ajouté ce post-scriptum. « Ne me répondez pas, réfléchissez à tout ce que je viens de dire. J'irai dans quelques jours vous embrasser, vous demander la réponse, vous remercier. » Pendant la première semaine d'avril, l'espérance ne cessa de grandir. Elle suivait Michel à travers les champs, car il fallait courir d'un bout du domaine à l'autre. On labourait des jachères, on semait le maïs, le trèfle, le sainfoin, on commençait à couper sur la hauteur, le long de la route de Fontenay, les premiers arpents de seigle vert. Près des étangs de Vaux, on roulait une prairie nouvelle, et partout, dans les herbages anciens, il fallait veiller au début des fossés, des canaux, des rigoles, que le printemps gonflait d'eau vive et dont les bords s'empanachaient déjà, dans le soleil, de touffes de menthe, de pimprenelle et de ciguë. La sève débordait, la terre s'ouvrait. Les chiens hurlaient la nuit, au passage des bêtes toutes levées dans les bois. Le grolier avait pris un chapeau de paille. On avait aperçu dans une chenevière Gilbert Cloquet à moitié valide, reprenant goût au travail et bêchant d'une seule main. Les filles qui gardaient les vaches, quand elles répondaient au bonjour lancé par-dessus les traces, avaient une étoile dans les yeux. Comment ne pas espérer ? Si je puis décider ma mère, quand elle aura dit oui, à passer 3 jours à Fontenay, elle sera émerveillée. Elle est artiste, et surtout elle est bonne. Elle aura pitié de moi et du domaine qui est à nous depuis plus de 3 siècles, et des habitants de Fontenay qui ne sont pas parfaits, mais qui vaudraient moins si nous n'étions pas là. Je lui donnerai un délai, si elle le veut, pour quitter Paris et venir s'installer ici. Le milieu de l'été, le milieu de l'automne, elle viendra. Le 9 avril, qui était le lundi saint, Michel partait pour Paris. Dans le filet du compartiment, en face de lui, il emportait une valise, le carton où dormait le chapeau de soie inconnu à Fontenay et un grand plan roulé et enveloppé du domaine pour discuter et expliquer les choses s'il y a besoin. Il se réjouissait toujours et des semaines à l'avance de ses excursions à Paris, 3 ou 4 fois par an. Mais cette fois, au plaisir de retrouver des relations agréables, des amis d'enfance et toute une élégance de vie qu'il aimait depuis bien plus longtemps, se mêlait une émotion qui le tint éveillé et frémissant tout le long de la route. À la gare de Lyon, il sauta dans un taximètre et dit au cocher « Allez, bon train, je suis attendu !» Il n'était pas attendu, il n'avait pas écrit de nouveau. Il doutait que sa mère fût à la maison à 3h30 de l'après-midi. Elle était chez elle. À peine entré dans l'appartement de l'avenue Kléber, il entendit une voix connue, une voix fine qui disait « Mais je crois bien ! Comment, c'est lui ? Michel ?» 3 secondes après, une porte s'ouvrait. Madame de Meximieux accourait au-devant du voyageur, attirait à elle la grosse tête qu'elle avait prise à 2 mains et l'embrassait et la réembrassait. « Bonjour, mon adoré ! Ah, que je suis contente de te revoir ! Depuis Noël, songe donc ! Ton père n'est pas rentré, mais il sera ici à 7 heures, nous dînons en ville. Que je suis heureuse de t'avoir ! Viens dans ma chambre !» Elle le prit par la main, elle l'entraîna dans la chambre tendue d'étoffe crème, à bouquet pompadour, éclair de toute la lumière de l'avenue. « Tu as bonne mine. Le voyage ne t'a pas fatigué ? Non ? Alors tu peux veiller ce soir. Sais-tu ce qu'il faut faire ? Je vais donner un coup de téléphone et prévenir les virelets que je t'amène. Ce sont des amis intimes que tu ne connais pas. Ils seront enchantés. C'est dit, n'est-ce pas ? Il s'était assis à côté d'elle, il la laissait parler, il trouvait doux qu'on s'occupât de lui. Et il la voyait avec tant de plaisir, animée, gaie, si jeune encore. Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure qu'il demanda, presque sans trembler, comme une chose dont l'heure est venue et sonne dans le premier silence. « Et ma grande question, y avez-vous songé ?» Madame de Meximieux leva la main et l'agita, comme pour effaroucher les mots qui passaient et les disperser. « N'en parlons pas à présent. Comme toutes les choses sérieuses, il faut traiter celle-là le plus tard possible. Oui, j'y ai songé. Ton père m'a raconté votre entretien. Puis il m'a laissé libre de faire ce que je voudrais. » « Tant mieux !»« Ne dis pas tant mieux, mon petit. Je ne sais pas. Cela dépend un peu de toi. »«
De moi ?»
Elle eut un sourire maternel.
« Oui, je t'expliquerai. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Ne me fais pas parler à présent. Je te donne rendez-vous. Quand pars-tu ? » ?»«
Après-demain soir. » »«
Eh bien, après-demain à 3 heures. Cela va ?»
Elle l'embrassa encore et ils se séparèrent. Le soir, Michel dîna chez les Virlet avec M. de Meximieux, qui ne manifesta aucun ressentiment des scènes violentes de Fontenay. Avec sa mère qui se montrait pour son fils plus tendre, plus prévenante encore qu'autrefois. Le mardi, il fit des courses et des visites. Le mercredi matin, il se rendit à la Villette et passa plusieurs heures à voir les arrivages de bœufs et à causer avec des éleveurs et des marchands qu'il savait devoir rencontrer là. Il fallait s'informer de l'état du marché en France et en Belgique, acheter quelques bêtes, renouer des relations commerciales qui seraient utiles si on gardait Fontenay, être jusqu'au bout de sa profession et préparer l'avenir, le sien ou celui d'un autre. Assez tard, il déjeuna au restaurant d'Agorneau, rue d'Allemagne, où se réunissent les propriétaires, les gros fermiers, les marchands de la vallée d'Auge et de plusieurs provinces de France. Puis, comme il n'était que 2 heures quand il se retrouva dans les magasins du printemps, il résolut de faire à pied la dernière partie du trajet. Dès qu'il fut seul dans la foule et qu'il commença de marcher vers le quartier de l'Étoile, l'inquiétude, à grand-peine écartée jusque-là, le ressaisit. Dans quelques minutes, c'était sa vie qui serait décidée. Toutes sortes de pressentiments sombres l'enveloppèrent et l'accablèrent. Il n'aurait pas pu expliquer pourquoi. Il se débattait contre eux. Il tâchait de se rappeler des mots de sa mère, des regards, des attentions, et de prévoir ce qu'elle avait décidé. Misérable jeu, volonté d'illusion, il le sentait bien. Et alors, il se répétait à lui-même, comme l'unique argument sans réplique, « Elle est bonne, heureusement, très bonne. » Madame de Meximieux n'était pas, en effet, sans bonté. Ses amis même disaient « Marguerite a beaucoup de cœur, au fond. » Et elle citait des visites qu'elle leur avait faites, dans les occasions douloureuses, elle rappelait d'elle des mots bien dits, faits pour avoir une fortune dans les cœurs tristes et dans le monde. Elle racontait l'histoire d'un cocher de fiacre tombé de son siège dans la rue, l'hiver, pauvre diable d'alcoolique, frappé d'une attaque d'apoplexie, et que Madame de Meximieux, la cliente qui se trouvait dans le fiacre, avait aidé à relever, avait fait transporter à la plus prochaine pharmacie et avait soigné elle-même. « Oui, ma chère, elle-même pendant 1 heure et demie. Le pharmacien qu'elle a payé déclarait qu'il ne tolérerait ni plus de friction, ni plus de sinapisme, et que le transfert à l'hôpital s'imposait. Sans cela, elle eût continué, elle me l'a dit. » On aurait pu prouver par d'autres traits la bonté de Madame de Meximieux. Malheureusement, elle l'a dépensée en dehors de sa famille, par accès, et, comme l'argent, de la façon la moins judicieuse. C'était la tête qui manquait plutôt, l'habitude de se servir des mots pour exprimer une idée juste, de son esprit pour réfléchir, de son habitude du monde pour observer autre chose que les signes de grossesse chez les jeunes femmes et d'anémie cérébrale chez les vieilles. Madame de Meximieux portait, à 48 ans, la peine de son éducation première, qui avait été ce qu'on appelle toute mondaine, c'est-à-dire cruellement vide. Elle avait toujours ignoré ce que c'était qu'un chez-soi.
Elle avait dissipé sa vie, son temps, ses affections, ses préoccupations et son argent, sans retrouver nulle part la trace de ce qu'elle avait donné. Dès le début de son mariage, si son mari avait su la juger moins sévèrement, l'aimer moins légèrement et en vérité la comprendre mieux, il eût pu refaire l'éducation de cette jeune femme. À présent, c'était presque une vieille femme en qui était morte déjà la faculté de comprendre plusieurs choses. Le plaisir, les distractions, les nouvelles, le bruit avaient pris sur elle une influence et, dans sa vie, une importance de premier ordre. Elle souffrait réellement dès qu'elle habitait 3 semaines en dehors de Paris. Elle n'avait aucun jugement personnel sur aucune chose. Elle possédait seulement, dans sa mémoire, une collection mal étiquetée et incomplète de jugements d'autrui, très variés d'origine, presque tous anonymes, souvenirs de lectures faciles ou de causeries, fragments de confidences ou de conférences, et qui ne l'avaient pas instruite, pas même renseignée, mais qu'elle amenait, plaçait, encadrait avec un art naturel et qui faisait dire presque partout « Elle est supérieurement intelligente !» Elle l'était passablement. Prudente en histoire, réservée dans l'abstrait, bâillante à la politique, elle parlait volontiers de toute autre chose. Sa voix était musicale et savante. Elle tenait l'esprit au chaud et le berçait. Quelquefois, et sans qu'elle le voulût, Madame de Meximieux entrevoyait l'indigence de son cœur, de sa vie, de son passé, de son avenir, et elle s'effarait. Tout à coup, à l'occasion d'une histoire d'amour ou de mort, elle s'apitoyait sur elle-même. Des larmes jaillissaient de ses yeux, abondantes et vaines, et elle sentait qu'elle aurait pu les verser utilement. Ce qu'elle aurait pu être lui apparaissait vaguement, mais assez pour qu'elle souffrît. Son effroi de la solitude lui venait de l'expérience de ses retours cruels. Elle avait peur de la vieillesse prochaine, de ne plus être distraite, de ne plus pouvoir sortir, de se trouver face à face avec elle-même et bientôt avec la mort. Elle aurait cru vivre et tout serait fini. Michel connaissait mal sa mère. Il s'était fait un roman de cette existence qu'il avait côtoyée. Il en remplissait les vides, il en expliquait le mystère avec son cœur d'enfant. Des mots de tendresse passionnés, des plaintes furtives, des larmes au départ, et il avait imaginé une mère exquise, maladive, obligée de vivre à Paris, mais qui souffrait vraiment de l'absence de son fils. On ne l'eût pas étonné si on lui avait dit, tout à coup, que Madame de Meximieux dépensait beaucoup d'argent et beaucoup d'heures en œuvres de charité. Il comprenait qu'elle fût fêtée. Il avait toujours rêvé de l'appeler à Fontenay plus tard, quand le château serait restauré. Il allait même plus loin dans le rêve et il songeait parfois. Quelle amie elle serait, et quelle aide, et quelle mère, si un jour une jeune femme venait habiter avec nous. Il les voyait, les deux chères images féminines, côte à côte dans l'avenue, à l'heure où le jour tombant se prête aux confidences et rend plus molles les silhouettes sur le vert profond déchaîné. Sa mère lui apparaissait plus nettement que l'autre. Il la savait jolie, incomparablement. Pour lui, elle ne vieillissait pas. Au fond de ses yeux, le portrait de sa mère, c'était celui qu'il avait vu toute sa jeunesse dans le petit salon de l'avenue Kléber, le pastel de Dubuff pendu au bout d'un cordon rouge et que le vent de la porte faisait remuer. La marquise de Meximieux avait, d'ailleurs, ses traits réguliers et menus et ce teint des blondes rousses qui prolonge quelque temps le crépuscule de la jeunesse. Mais la cinquantaine avait sonné et rien ne lui résiste. L'âge était inscrit dans sa chair qui se corrompt sous la peau encore belle. En revoyant sa mère après des mois d'absence, Michel avait eu cette impression, si commune et si cruelle, « Elle a vieilli. Point de ruine brutale, mais des paupières alourdies, des rides très fines, presque jolies, allongeant les yeux, un peu d'empattement au bas des joues, et on ne sait quel reflet livide qui glissait par moments sous la nacre admirable des épaules et du cou. 3 jours avaient suffi pour qu'il ne remarquât plus cet amoindrissement de la beauté de sa mère. Il eut même une surprise, un moment de joie épanouie, lorsque, en revenant de la Villette, à 3 heures, à l'heure exacte du rendez-vous, il trouva dans l'antichambre Madame de Meximieux en costume de visite, le chapeau à aigrette sur la tête, la voilette nouée, le collet de zibeline entr'ouvert et laissant voir le collier d'or, auquel pendait un médaillon d'émeraudes et de perles. Elle avait 30 ans ainsi, l'âge du portrait. « Vous rentrez, maman ?»«
Non, mon chéri, je vais sortir, mais je t'attendais puisque c'est convenu. J'ai encore une minute. Viens dans le petit salon. »
Il suivit, mécontent, et s'assit près de la cheminée blanche, tournant le dos à la lumière. Madame de Meximieux s'assit de l'autre côté. Elle sourit, et l'on eût dit que c'était à sa robe de crêpe de Chine, toute neuve, qui tombait bien.
« Figure-toi que j'avais oublié. L'invitation était pourtant piquée au coin de ma glace. J'ai une matinée chez Madame de Gréchel. La pauvre femme est si malheureuse. Elle a perdu sa fille unique, il y a 3 ans, et elle est si reconnaissante qu'on aille la voir. Elle se console en faisant faire, chez elle, un peu de littérature et de musique. Seulement, tu comprends, comme nous sommes au Mercredi Saint, ce sera tout à fait dans l'intimité. Pourquoi ne viendrais-tu pas ? Il faut absolument que tu partes ce soir. »
Absolument. Et je comptais que nous aurions le temps de causer. J'espérais passer les dernières heures avec vous.
Mais je t'explique, mon pauvre enfant, c'est impossible.
Elle allongea son bras ganté et caressa la main de son fils.
Ne te fâche pas, dis-moi tout. Je parle d'une minute, j'en ai 10 à t'offrir, mais pas plus.
Il aurait fallu une demi-journée.
Pourquoi, mon Dieu ?
Pour vous raconter ma vie que vous ne connaissez pas.
C'est une phrase que j'ai entendue au gymnase, mon petit.
Ce n'est pas là que je l'ai prise, croyez-moi.
Il fit un effort pour rompre sa pensée et la ride se creusa entre les sourcils.
Soit, je vais droit à la conclusion. Mon père, comme vous le savez, m'a annoncé que nous allions à la ruine.
« Est-ce qu'il m'a accusé par hasard ?»
Michel eut un geste vague. Elle y vit une dénégation.
« Tant mieux, car l'injustice eût été trop criante. Ton père n'a jamais connu la valeur de l'argent. Il a dépensé toute sa vie plus qu'il n'avait. Et tu comprends que ce n'est pas à moi de le lui reprocher. Je suis dans une situation délicate. Il m'a épousée presque sans dot, et la fortune qu'il a dissipée, en somme, il en était le maître.
Mère, je ne juge pas entre vous. Je demande au contraire qu'on me juge. Écoutez-moi bien, comprenez-moi. S'il y a quelqu'un qui soit sans responsabilité dans ses dépenses excessives, vous avouerez que c'est moi. Eh bien, je suis attachée à Fontenailles par toutes sortes de liens. C'est notre terre patrimoniale. Je vous supplie de la sauver en y revenant.
Pour toujours ?
Sans doute, puisque mon père m'a dit que nous ne pouvions plus avoir qu'un seul loyer.
La campagne, pour toujours ? Mais mon ami !
Madame de Meximieux s'était reculée dans son fauteuil, effarée, comprenant à peine qu'une proposition pareille pût lui être faite. Son fils attendait, frémissant, des mots plus nets. Elle se ressaisit. D'un geste féminin, qui respectait l'étoffe, elle toucha son corsage, la broderie de la manche, la jupe de crêpe de Chine. Sa tête suivait le geste d'un mouvement jeune.
« Voyons, Michel, est-ce que j'ai l'air d'une bergère ?»«
Oh non !»«
Alors, tu ne veux pas me condamner à vivre dans les bois ?»«
Il s'agit bien d'une condamnation, en effet. Vivre avec moi, avec mon père, utilement et simplement. »«
Je le souhaiterais, mon ami. Je ne désirerais que cela !»
« Faites-le donc !»«
Mais ma santé exige tant de soins !»
Michel riposta vivement.
« Mais vous n'avez besoin que de repos et de retraite, ma mère !»«
Encore faut-il parler d'une retraite possible, mon ami ? Qu'est-ce que nous ferions là-bas, sans habitude, sans relation ?»«
Sans distraction, n'est-ce pas ? C'est cela que vous voulez dire ?»«
Eh bien oui, si tu veux !» je ne puis pas m'en passer. »
Sans matinée de littérature et de musique, sans soirée, sans comédie, sans bavardage et sans auto. Qu'est-ce que nous ferions si nous pouvions servir à quelque chose? Si nous économisions au lieu de nous ruiner? Si nous nous faisions aimer? Si nous pensions à d'autres qu'à nous-mêmes? En effet, la question est angoissante, je le comprends.
Tu es dur, Michel, très dur, comme ton père. Tu lui ressembles. Je ne l'aurais pas cru, et tu me fais beaucoup de peine. »
Elle pleurait. De grosses larmes perlaient au bord de ses yeux, et pour les empêcher de couler et de mouiller la voilette, elle les épongeait à petits coups, le visage tourné vers le feu mourant. Le bout de la bottine frappait les chenets.
« Oui, tu es dur, tu ne penses qu'à toi.
Et vous, ma mère, à qui pensez-vous donc ? Vous ne voyez donc pas que de nous trois, le plus jeune, c'est moi ? Que le seul avenir à ménager, c'est le mien ? Je ne suis pas dur en vous le rappelant. Vous voulez me ramener ici où je serai désœuvré. Vous m'avez laissé me préparer à une carrière, puis y entrer, puis l'aimer, et maintenant vous la brisez. Ah non, le plus cruel de nous !» Il se leva et fit un pas vers elle.
« Comprenez donc que j'ai été malheureux toute ma vie, maman !»
Madame de Meximieux leva les mains. Elle sanglotait.
« Ah, mon petit, et moi ! Je ne veux pas me plaindre, mais je ne veux pas que tu croies que je n'ai pas songé à toi. Ne me regarde pas comme tu fais avec des yeux de reproche. Écoute, tu vas voir. »
Elle essayait de sourire.
« J'ai pensé à un moyen. Ton père m'a raconté votre visite à la Vaucreuse. Il m'a rapporté que mademoiselle Antoinette Jacquemin était délicieuse. Est-ce ton avis ?»«
Oui. » »«
Elle a 18 ans. Elle est riche, très riche. Eh bien, fais-toi aimer, tu retrouveras Fontenay. »
Les fortes épaules de Michel se soulevèrent d'indignation. Sa voix monta et trembla.
« Non, je vous en prie, plus un mot. Le moyen n'est pas pour moi. Ah, quel souvenir j'emporte! Quelle dernière déception! Me croire capable !»« Mais de quoi, Michel? De quoi? Qu'ai-je dit de mal ?»
D'offrir ma ruine en dot à cet enfant dont le père vient d'acheter mon Fontenay. Hier, je pouvais l'aimer. Aujourd'hui, quel homme je serai !» La porte s'ouvrit. M. de Meximieux entra en tenue de général. Il arrivait du dehors, le visage fouetté et raffermi par le vent. Il venait d'assister comme témoin au mariage d'un de ses officiers. Il vit d'abord son fils qui s'avançait vers lui.
« Tu pars ? À l'instant même !»
L'expression du visage de Michel, le sentiment que la blessure venait d'être faite, les sanglots de Madame de Meximieux qui avait caché sa tête dans ses fourrures, changèrent subtilement le ton du général. Le père s'émut à la douleur du fils. Il dit posément « Je t'avais prévenu, mon ami, que c'était impossible. 50 ans de Paris, quelle attache, tu comprends ? Moi, peut-être, j'aurais pu accepter. Je suis de race rurale, en somme. Mais elle ne peut pas, tu le vois. Je n'y ai jamais cru.
Moi, j'espérais. Je n'ai plus la moindre illusion, croyez-moi. Mais avant de vous quitter, je voudrais savoir si le moyen qui vient de m'être proposé pour conserver Fontenay était approuvé par vous.
Le moyen ?
Philippe, c'est moi qui l'ai proposé. « Moi qui l'avais imaginé. Je te certifie, Michel, que ton père n'en a rien su. »«
Eh bien, mon père, je vous fais juge. Ma mère a pensé que, si je me faisais aimer de mademoiselle Antoinette Jacquemin, si je l'épousais, les Meximieux pourraient ainsi, par mariage, rentrer dans Fontenay. Moi, je m'y refuse. »«
Pourquoi ?»«
Parce que... En vérité, vous me le demandez ?» Parce que cette manière de reprendre un bien qu'on ne peut pas conserver me fait horreur. Jamais je n'épouserai mademoiselle Jacquemin, propriétaire de Fontenay et m'y recevant. » Monsieur de Meximieux écoutait, grave, un peu courbé pour mieux entendre, comme au rapport, quand on lui demandait une explication. Il se redressa et vivement tendit la main.
« Très bien, Michel, très bien. » et comme Michel le regardait, les yeux dans les yeux, étonné de la vigueur de l'étreinte.
« Michel, tu es vraiment l'un de nous, mon ami. Tu seras cette nuit à Fontenailles ?»«
Très tard. »
« Et tu y resteras ?»«
Jusqu'au 31 décembre. »
Il y eut un silence. « Dieu veuille t'y maintenir plus longtemps. »
Une sorte de rire douloureux passa sur le visage du jeune homme.
« Il le peut, en effet, et j'espère qu'il le voudra. Adieu, mon père. »
« Et moi ?» demanda madame de Meximieux en se levant. « Et moi, Michel, ta mère, tu ne m'embrasses pas ?»
Elle venait au-devant de lui, les bras soulevés, la tête un peu inclinée, les yeux baissés par un regret de ce qu'elle avait dit étourdiment, incapable de se défendre, pleureuse parfumée, mais qui pleurait vraiment.
« Pardonne-moi, vous autres hommes, vous raisonnez trop. Je t'assure que je t'aime bien. Je t'assure que je regrette de ne pas pouvoir. Je t'assure que je n'en puis plus. »
Elle serra dans ses bras Michel, qui la baisa sur le front et ne répondit pas. Il s'écarta. Il vit son père debout au milieu du salon, approuvant de la tête son fils qui partait, incapable de commander dans sa maison, lui qui partout ailleurs se faisait obéir. Il aperçut sa mère qui se retirait à reculons, accablée, suffoquant, ses vêtements froissés et mouillés de larmes, la voilette relevée de travers, les yeux gonflés, devenus vieilles. Il eut envie de crier
« Vous sacrifiez ma jeunesse aux années qui vous restent, et vous êtes mon père et ma mère !»
Mais la voix résista, peut-être le cœur lui-même. Michel fit un geste d'adieu et de désespoir, et il sortit.